Réussir votre go-to-market sur le marché allemand est notre objectif. Depuis plus de 10 ans, l'équipe Wings accompagne les entrepreneurs et leurs équipes dans leurs projets de go-to-market sur le marché allemand. Nous croyons fermement que l'apprentissage auprès de ceux qui ont déjà fait le chemin est essentiel pour réussir. C'est pourquoi, dans ce podcast, nous donnons la parole aux personnes en charge de ces projets. Des CEO, des country managers ou encore des personnes qui font partie de l'équipe de lancement. Ils partageront avec nous leur histoire et nous livreront leurs précieux conseils et astuces pour lancer une entreprise ou un projet en Allemagne. Je suis Andrea Vaughan, la fondatrice de Wings.co. Nous aidons des entreprises françaises à lancer ou à améliorer leur activité sur le marché allemand et vice-versa. Alors préparez-vous à découvrir les secrets de la réussite sur le marché allemand. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Chère Caroline, bienvenue dans notre podcast Go to Germany. Je suis super contente de pouvoir t'interviewer et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, le franco-allemand nous lie toutes les deux depuis longtemps, car tout d'abord, nous sommes deux Allemandes, toutes les deux vivant en France, mais aussi parce que nous nous sommes rencontrées autour de ce sujet en 2014. Je ne sais pas si tu te rends compte que ça fait presque 10 ans qu'on se connaît.
C'est vrai.
Parce qu'à l'époque, oui. À l'époque, tu as rejoint le Digital Club franco-allemand en tant que stagiaire. C'était après tes études, tu es venue chez nous. Et maintenant, tu as fait un sacré bout de chemin dans un métier qui te passionne, le voyage. Donc, tu es une globe-trotteuse avertie, toujours en train de voyager partout dans le monde. On peut voir ça sur tes photos que tu peux partager sur Internet de temps en temps. Donc, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, la première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ainsi que l'activité d'Evanios pour ceux qui pourraient ne pas vous connaître?
Merci pour l'introduction et pour l'invitation, Andrea. Donc, moi, c'est Caroline Marshall, je suis Head of Customer Satisfaction chez Evanios. Et auparavant, j'étais Country Manager Allemagne et Pays-Bas. Donc, je faisais partie de l'équipe du lancement du marché allemand chez Evanios dès les premières campagnes marketing à la phase de hypercroissance ensuite. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Evanios, on est un marketplace dans le secteur du voyage. On met en lien des voyageurs avec des agences locales pour des voyages sur mesure. Donc, les agences dans les pays autour du monde qui... Cela permet du coup des expériences plus authentiques, vu qu'on planifie son voyage avec quelqu'un qui vit réellement sur place, qui connaît son pays, des expériences aussi plus hors sentier battu, responsable. Et en plus d'argent reste dans l'économie locale par rapport à un modèle de tour opérateur classique, par exemple. Donc, on est une start-up française à la base, fondée en 2009 et qui s'est lancée sur plusieurs marchés européens.
Mais toi, le tourisme, ça a toujours fait partie de tes passions depuis le tout début, non?
Ben, j'ai fait à la base des études de tourisme, j'ai travaillé au Club Med, j'ai travaillé dans pas mal de différentes activités touristiques et du coup j'ai rejoint Evanios il y a 7 ans maintenant parce que ça matche mes deux passions, développer les marchés allemands, lancer les marketing sur un marché international et puis l'industrie du voyage avec en plus un modèle assez responsable, donc des matchs parfaits.
Tout
je
bon.
Dirais.
Le match oui. Parfait en effet. Et donc toi, tu dis, tu as rejoint Evanios il y a 7 ans. Donc, à l'époque, il y avait déjà un tout petit embryon allemand au sein d'Evanios quand tu es arrivé. Est-ce que tu peux nous dire, au moment où tu es arrivé chez Evanios, où vous étiez dans votre histoire allemande, qu'est-ce qui existait déjà et pourquoi toi, tu as rejoint l'équipe et ce que vous avez fait au début, comment vous avez construit ce projet autour du marché allemand?
Avant mon arrivée chez Evanios, il y avait déjà certaines bases mises en place. Il y avait une analyse de marché faite, il y avait les sites traduits. Ils ont un peu testé les concepts aussi, en voyant avec nos agences locales partenaires du marché français, si certains ont peut-être des employés allemands ou travaillent déjà sur le marché allemand, et s'ils ont envie de se lancer sur le marché allemand ensemble avec nous, donc pour qu'on ait la partie B2B, ou la partie, on va dire, offre prête d'un côté. Et ils ont fait certains tests des campagnes d'acquisition, notamment avec l'aide d'un consultant allemand. Donc, pour vraiment voir est-ce qu'il y a un potentiel du marché, quels sont les coûts d'acquisition, est-ce que ça peut prendre ou pas, etc. Et du coup, moi, j'ai rejoint Evanios en 2015. Il y avait déjà une personne en CDI, ma collègue Johanna à l'époque, qui a lancé toute la partie B2B. Donc, la mise en place du réseau, l'adaptation de l'offre touristique. Et moi, du coup, j'ai commencé à lancer la partie marketing, les premières campagnes, etc.
Et donc justement, à ce moment-là, donc tu as dit, vous avez déjà fait une stratégie, une étude du marché allemand. Donc est-ce que l'Allemagne, en termes de taille de marché, était une évidence pour Evaneos? Est-ce que tu peux nous dire éventuellement aussi quelle était la chronologie, ou est-ce que l'Allemagne était le premier pays, ou est-ce que vous aviez d'autres pays lancés avant? Comment est-ce que ça s'intègre dans cette stratégie de développement international?
Donc, oui, Evaneos s'est lancé sur le marché français à la base. Ils ont mis en place les bases sur le marché français. Et après, comme la plupart des startups françaises, probablement, les choix étaient de se développer en Espagne et en Italie, les deux marchés qui semblent, je pense, les plus évidents pour la plupart des startups françaises. Et du coup, en 2014, on a fait notre deuxième levée de fonds, des 4 millions 4 euros. Et à ce moment-là, il y avait un peu la réflexion et la décision, comment est-ce qu'on peut aller plus loin, comment est-ce qu'on peut vraiment devenir un leader sur le marché européen. Et pour devenir un leader, surtout dans le secteur du voyage sur le marché européen, bah, il faut passer par l'Allemagne, qui est quand même le pays avec le plus grand potentiel, une énorme opportunité de business, ici en termes de taille des marchés du voyage, en termes d'argent aussi dépensé dans les voyages internationaux. Donc c'était assez évident. Qu'il faut le tenter, qu'il faut le comprendre et qu'il faut y aller.
D'accord. Et est-ce que, donc à cette époque-là, bon, évidemment, le voyage fait partie du quotidien des Allemands comme partout ailleurs dans le monde. Donc est-ce que vous, en tant que société française, avec votre approche française, peut-être une approche qui peut matcher assez bien, peut-être aussi avec la culture allemande dans le voyage, comment est-ce que vous étiez perçu tant du côté B2B, tant du côté B2C, donc des clients finaux? Je me souviens qu'on a eu beaucoup de discussions, toi et moi, sur la question du est-ce qu'il faut montrer qu'on est une start-up française? Est-ce qu'il faut ne pas le montrer? Comment est-ce que le client allemand voit des offres, notamment françaises? Donc, comment est-ce que vous avez résolu un petit peu cette question-là, tant sur le côté B2B, sur le B2C? Est-ce que vous avez caché, oui ou non, que vous étiez français? Comment est-ce que ça s'est développé chez vous?
Alors du coup, côté B2B, on va dire, c'est difficile de cacher qu'on est français. On a notamment, si je pense, au premier partenaire marketing qu'on a essayé de trouver, donc des entreprises allemandes qui ont peut-être les mêmes valeurs, la même cible ou autre approche qui pourrait être intéressante pour faire des campagnes ensemble. C'est très très difficile bah, d'établir les premières coopérations parce qu'étant pas allemande, et les entreprises allemandes, malheureusement, préfèrent toujours encore de travailler avec d'autres entreprises allemandes. Donc sur ça, on a vraiment eu pas mal de difficultés au début. Pareil côté presse. Je me rappelle notamment quand on a fait notre plus grande levée de fonds en 2018, on a levé 70 millions d'euros. En France, c'était très facile d'avoir beaucoup, beaucoup de médias qui en parlent. C'était quand même une levée assez conséquente de la French Tech à l'époque. En Allemagne, c'était très, très difficile d'avoir des retombées de presse sur le sujet parce qu'on est français. Côté clients finaux, c'était un peu plus, on va dire facile parce qu'on a vraiment essayé de faire le maximum pour pas être perçu comme une entreprise française, notamment dans le secteur du voyage où les tour opérateurs, les concepts du tour opérateur étaient créés en Angleterre et en Allemagne. Et c'est quand même, il y a plein de TUI, etc. Les plus grands tour opérateurs connus dans le monde sont allemands. Donc, il était très important pour nous de créer de la confiance et d'être perçu comme une entreprise allemande. Donc, on a créé une adresse physique, un numéro de téléphone. On a investi assez rapidement aussi dans certains labels comme Trusted Shops ou autres. On est devenu membre d'associations de voyage allemands, ce qui nous a pas mal aidé aussi pour avoir accès à des avocats allemands, à avoir bah, accès au réseau du tourisme allemand. Et je pense que c'était super clé pour nous.
Et est-ce que tu penses que le fait que vous étiez une équipe allemande avec des Allemandes en France et qui pouvaient vraiment aussi discuter en allemand avec les Allemands, est-ce que tu penses que ça avait un vrai impact par rapport à ça, tant du côté B2B et aussi B2C? Est-ce que vous auriez pu lancer ça en anglais, par exemple, comme souvent c'est sous-entendu qu'on peut lancer le marché allemand en anglais?
Bah, je vois pas comment ça peut être possible de lancer un marché aussi compliqué et aussi complexe et compétitive avec une équipe non native. Je pense que même pour les premières études de marché, pour les débuts du lancement, on peut très bien commencer les premiers pas, peut-être avec un stagiaire pour juste commencer à traduire les premières choses, etc. Mais assez rapidement, et je suis assez fière de ça, en soi, que nos fondateurs et notre direction a très bien compris qu'on ne peut pas craquer un marché aussi compliqué soit avec des profils non allemands, soit avec que des stagiaires. Donc, on a assez rapidement investi quand même dans du recrutement des CDI germanophones et aussi des personnes qui n'étaient pas tous super juniors. Donc, petit à petit, on a rajouté des profils qui avaient, notamment par exemple dans l'équipe sales, des personnes qui avaient quelques années d'expérience dans un tour opérateur allemand. On a rajouté à un moment stratégique Annika, qui est aujourd'hui dans notre CODIR, qui a travaillé 15 ans chez Lufthansa et qui a amené cette connexion quand même avec des partenaires allemands possibles, etc. Donc, je pense que ça nous a beaucoup aidés, qu'on nous fait confiance, qu'on s'est dit, OK, il faut une équipe locale, il faut. C'est la connaissance des marchés, il faut comprendre les marchés, il faut pouvoir aller sur place et discuter et créer cette confiance-là.
Oui, et donc tu dis une équipe locale, maintenant évidemment s'ajoute à ça la question et aussi la différenciation qu'on regarde souvent avec le B2B. Donc chez vous, l'équipe locale était quand même basée en France, enfin vous étiez tous allemandes et en effet je comprends que l'importance d'avoir aussi des profils expérimentés et qui viennent avec une connaissance du secteur, qui viennent avec une connaissance du monde, du voyage pour créer cette confiance notamment au niveau B2B. Mais aussi pour les partenariats avec des entités en Allemagne. Mais vous étiez localisés quand même tous à Paris. Est-ce que ça, c'était un choix? On voit souvent qu'en B2C, tout peut se faire depuis le siège et donc il y a tous les avantages d'être tous ensemble. Mais est-ce que vous avez fait beaucoup de voyages, par exemple, sur place, des salons, pour quand même montrer sur place que vous aviez une présence?
Oui, en fait, on a fait le choix de ne pas ouvrir un bureau en Allemagne parce qu'on s'est dit, étant basé à Paris et étant dans notre dans l'équipe centrale, on va dire, ou avoir un siège d'Evaneos avec toutes les équipes sur place, ça aide quand même de créer des connexions assez fortes, une compréhension aussi des enjeux les uns des autres et de mieux travailler ensemble. Donc pour nous, c'était, je pense, un grand avantage quand même d'être assez bien interconnecté avec les autres équipes, si c'était les autres marchés, pour pouvoir s'inspirer, s'aider, OK, nous on a testé ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et aussi les équipes centrales, si c'est le tech, produits, etc., pour qu'ils comprennent bien nos enjeux. Je pense que c'était beaucoup plus facile que si on était dans un petit bureau basé en Allemagne et pas forcément très bien connecté. Par contre, pour nous, c'était ultra clé d'aller très souvent en Allemagne. Donc, à un certain moment, on est vraiment allé une fois par mois, soit pour faire un événement avec la presse, soit pour faire un salon, soit pour rencontrer quelques de nos premiers clients, etc. Donc, pour avoir cette connexion-là. Et je pense que sans ça, c'est très difficile de comprendre aussi les tendances du marché, de comprendre ses clients et de créer cette réassurance. On y revient toujours, qui est super clé.
Oui, la réassurance qui est en effet qui est super clé. Et avant de parler plus des clients, parce que ça évidemment ça nous intéresse aussi, si on reste pour une dernière question sur la structuration de l'équipe, donc vous aviez une équipe en France, et quelle était la répartition entre ce qui était fait en centrale, donc une personne qui fait une tâche particulière sur tous les pays, ou est-ce que vous avez vraiment une réplique finalement d'une équipe, de toute une équipe avec marketing, sales et tout ça pour les fonctionnalités allemandes? Quelle était un petit peu la répartition des responsabilités entre les équipes allemandes et françaises et comment est-ce que ça a fonctionné pour vraiment avoir ce côté local et adapté, mais en même temps dans le contexte d'une société qui était quand même déployée sur plusieurs pays?
Nous, on a choisi de mener une stratégie vraiment avec un assez fort poids des équipes locales. Donc, on a choisi au début de ne pas avoir une équipe centrale qui s'occupe de tout, mais vraiment avoir des entités, des marchés locaux. Du coup, il y avait une stratégie globale sur les modèles Evaneos qui restent les mêmes sur tous les marchés, les produits où on a essayé d'avoir des adaptations mineures là où il faut en avoir. Et assurer que toutes les tests qui sont faits, toutes les décisions qui sont prises ont un impact positif sur tous nos marchés. Vraiment avoir ces mindsets partout. Et pareil sur les positionnements, l'identité des marques, etc. On a choisi vraiment une stratégie globale où du coup des équipes centrales qui définissent l'identité des marques, etc. Mais par contre, les country managers et les équipes locales, ils étaient toujours impliqués dans la définition de cette stratégie. Donc, amener des market insights, à définir où est-ce qu'on en va, est-ce que c'est pertinent pour notre marché aussi ou pas, etc. Donc, ça sur la partie globale et en local, on définissait vraiment quel investissement marketing on fait, qu'est-ce qu'on adapte, quelle est notre offre en ligne, quel est notre réseau d'agences, etc. Et du coup, on a structuré l'équipe en ayant une petite équipe marketing avec un pôle acquisition, un pôle communication, et partenariat et une équipe sales qui s'occupait du coup à faire du account management de nos agences qui travaillaient sur ces marchés, donc leur aider à adapter leurs produits, à mieux vendre, etc. Et une équipe service client, évidemment.
Oui, évidemment. Et donc, du coup, une forte implication quand même des équipes, des différentes équipes pays dans la définition de la stratégie globale. Toujours regarder que la stratégie est bien adaptée à tous les marchés, qu'il n'y a pas de blocage majeur par rapport à une nouvelle fonctionnalité ou autre. D'accord. Et je me souviens encore que quand tu as lancé la première publicité télé en Allemagne, je pense que vous avez fait ça à l'époque, là, il y avait quand même certainement au niveau marketing une adaptation importante parce qu'on a parlé de la confiance, on a parlé du fait qu'il faut apparaître allemand, par exemple. Donc, est-ce que ça, c'était quand même à la marge des adaptations que vous avez faites par rapport au point à mettre en avant sur le marché allemand par rapport au marché français?
Oui, donc l'identité des marques globales, elle doit être pour moi, et j'en suis convaincue que si on veut créer une marque européenne, il faut les mêmes grandes lignes, on va dire, mais il fallait certaines adaptations. Le marché. Et nous, par exemple, bon, sur la campagne télé, on a testé la télé en Allemagne avant de tester sur d'autres marchés. On n'avait jamais fait la télé en France, etc. Donc, on a créé notre premier spot télé exprès pour le marché allemand. Donc là, c'était encore plus facile. Mais même si on avait lancé directement sur plusieurs marchés, on aura adapté certaines choses, notamment avoir plus d'éléments de réassurance, peut-être y intégrer, je me rappelle, je crois qu'on avait intégré les labels Trusted Shops, etc., ou les notes de satisfaction client, des plateformes d'avis, toutes ces choses-là qui font qu'un utilisateur allemand s'est dit « Ok, c'est quelque chose de sérieux, je peux aller jeter un coup d'œil. »
Et justement, donc, si on est en train de parler du client allemand et comment le convaincre, donc on a déjà touché à la confiance qui revient à chaque conversation autour de ce sujet-là, mais quels sont pour toi, maintenant tu connais bien aussi le marché français, vous avez beaucoup discuté avec les équipes françaises, enfin, vous étiez très intégrés, quelle est pour toi un petit peu la, tu vois, si tu devrais en parler avec quelqu'un qui va lancer son shop en ligne demain, quelles sont pour toi les plus grandes différences entre le client français et le client allemand et comment est-ce qu'il faut le traiter, ce client, ce fameux client allemand?
Eh ben, du coup, là, les premiers points, tu viens de les dire et on l'a dit déjà très souvent, c'est vraiment cette chose qui a même un terme en allemand qui s'appelle la German Angst, qui est du coup cette peur de beaucoup de choses, de beaucoup de nouveautés. Toujours avoir ça en tête et se dire comment est-ce que je peux vaincre cette German Angst, qu'est-ce que je dois faire pour inspirer confiance, pour être considéré comme une marque qui est sérieuse, qui est réassurante. Donc ça passe par les avis, ça passe par les CGV, etc. Même beaucoup des boîtes françaises, je pense qu'ils sont lancées sur le marché allemand, en parlent, mais les Allemands sont quand même les seuls d'aller jusqu'au footer d'un site pour regarder qu'est-ce qu'il y a là dans les CGV, etc. C'est quelque chose impensable, je pense, pour beaucoup de Français à la base. Donc vraiment cette partie-là. Après, il y a certaines choses que je trouve importantes aussi. Les Allemands, ils anticipent bien plus que les Français. C'est un peu le cliché, mais c'est vrai. On les voit s'il s'agit de recrutement. Que les Allemands ils postulent aujourd'hui pour dans 6 mois potentiellement, que les Français peut-être pour dans 1 semaine. J'exagère un peu, mais c'est quand même un peu ça. Et c'est la même chose pour nous, pour nos cycles de vente. Les Allemands ils se projettent aujourd'hui pour un voyage dans 1 an, que les Français ils partent, ils cherchent quelque chose maintenant pour le mois d'août. Donc il y a vraiment cette différence-là à prendre en compte. Et après, il y a des attentes, je trouve, en communication qui sont aussi assez différentes. Les Allemands aiment bien quand quelque chose est clair, direct, honnête, et qu'ils savent de quoi ils peuvent s'attendre. Et du coup, ils ont des attentes souvent pas forcément plus élevées que les Français, mais ils se disent, si c'est écrit comme ça, il faut que ça se passe comme ça. C'est un peu moins flexible, peut-être, sur certains points que les Français. Donc voilà, je pense que des bases, je peux que conseiller dès le début d'écouter ses clients, de passer quelques jours à appeler des clients ou à faire les services clients soi-même, à lancer assez rapidement des surveys pour comprendre quels sont les retours, est-ce qu'ils sont satisfaits, pas satisfaits, pourquoi, pour vraiment comprendre les attentes.
Oui, ça, je me souviens très bien quand j'ai, au début de ma carrière, travaillé aussi dans l'e-commerce, ce que tu viens de dire. C'est que, donc, nous, on était dans l'e-commerce, dans la livraison de produits. Et en effet, notre équipe française aimait bien mettre sur le site livraison en 48 heures. Et moi, j'ai dit, mais on livre jamais en 48 heures en Allemagne. Et donc, ça arrive pas. Oui, mais les gens vont quand même acheter après, c'est pas grave. Je dis, non, si tu écris 48 heures, tu livres en 48 heures. Sinon, on va écrire 72 heures ou 96 heures. C'est peu importe. Mais si c'est écrit, dans ce cas-là, il faut que ça soit respecté. Et en effet, là, on est plus fidèle aux règles et aux promesses de vente. Hein, il faut que ça soit respecté. Et là où les Français sont peut-être un peu plus souples, où ils savent en fait que bon, bah, s'ils disent 72 heures, dans ce cas-là, ça va être dans les prochains jours, quoi. Et donc l'Allemand, il va dire bah, non, il faut que ça soit en 72 heures et pas après.
C'est vrai,
Donc.
c'est exactement ça.
Oui. Et est-ce que donc dans le voyage, qui est aussi quand même un budget important, donc tu vois, c'est pas comme si j'achetais un livre à 11,90 € sur Internet. Est-ce que au niveau, par exemple, des assurances ou même les moyens de paiement que vous avez utilisés sur le site allemand, est-ce que vous avez fait des adaptations et éventuellement aussi des adaptations aux produits justement liées à cette particularité allemande?
Alors sur la partie moyen de paiement par rapport à beaucoup de sites e-commerce, on n'avait pas trop le besoin de faire des adaptations parce que, en fait, nous, vu qu'on a un marketplace, les clients ils rentrent en contact avec l'agence locale, il y a beaucoup de discussions, etc. Il y a vraiment une phase très longue de co-construction du voyage. Et du coup, au moment où ils vont payer réellement leur voyage, je ne pense pas que les moyens de paiement va être une raison pour pas acheter. Donc, après, on propose des moyens les plus classiques, mais. Pour cette partie-là, on n'avait pas trop cette problématique-là. Par contre, en termes d'assurance, oui, on a lancé la vente d'assurance avec un partenaire français qui est aussi sur le marché allemand, donc ça pouvait matcher, etc. Mais assez rapidement, on s'est posé la question pourquoi les Allemands ils achètent très peu de voyages et en fait très peu d'assurance. Et en fait, beaucoup d'Allemands, ils ont des assurances. Pour toute l'année, des assurances voyage qui couvrent du coup tout leur voyage, etc. Et du coup, ils ne vont pas l'acheter pour un voyage. Et ces compréhensions-là, parfois, on les découvre au fur et à mesure, mais ils expliquent beaucoup de choses, que ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'énergie dans la vente d'assurance, peut-être pour notre produit, il vaut mieux le mettre dans d'autres axes. Voilà. Donc,
Donc
sur
les
ça, on n'avait
Allemands
pas trop
avaient
de
déjà
problème.
leur propre assurance pour assurer leur voyage ou via les cartes crédit éventuellement utilisées, donc plus d'assurance en Allemagne qu'en France.
Oui, clairement. Intéressant aussi.
D'accord. Non, mais c'est intéressant, en effet, ça, on revient à la réassurance, au fait qu'on veut s'assurer, qu'on veut être sûr qu'une fois qu'on a acheté un produit, un voyage, il est vraiment délivré. Donc on veut vraiment s'assurer tout le temps, tout le temps. D'accord, ça c'est super intéressant. Est-ce que en termes d'acquisition client, si on parle maintenant comment vous les avez trouvés, ces clients, quels sont les canaux que vous avez utilisés dès le départ, qui fonctionnent bien, peut-être mieux que la France? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr. Alors, sur la partie acquisition, on s'est rapidement vu confronté à des problématiques que je pense beaucoup d'acteurs se voient confrontés sur le marché allemand. Les coûts d'acquisition qui sont quand même bien plus élevés qu'en France. En moyenne, on paye 3 fois plus ou on paye 3 fois plus pour une demande de devis sur notre site sur le marché allemand que sur le marché français. Donc, c'est quand même des différences assez importantes à prendre en compte. Mais derrière, une fois ces personnes sont engagées, ils achètent beaucoup plus. Que les Français, les Espagnols, les Italiens. Donc, on avait des problématiques, des business models, on va dire, assez différents que sur d'autres marchés, où on a toujours ces problématiques d'ailleurs. Côté autres canaux
Et
d'acquisition,
est-ce que,
donc, oui.
attends, avant, est-ce que, en termes, parce que tu dis, et ça aussi c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent, donc une fois que le client allemand acquis, bah, il est plus fidèle que dans d'autres géographies, est-ce que ça c'était en termes de rachat, donc, comment dire, la répétition, les achats répétés, ou aussi en termes de panier moyen plus élevé?
C'est les deux. En fait, nous, les Allemands, ils ont un panier moyen qui est plus élevé que les autres marchés. Ils achètent, une fois qu'ils ont commencé à être engagés avec leur agence locale, à planifier le voyage, etc., on a un taux d'achat qui est beaucoup plus élevé que sur l'Espagne, l'Italie et la France. Donc, une fois qu'ils ont fait confiance dans ces produits de base, qu'ils ont discussion avec leur agence, bah, ils achètent plus souvent. Et puis derrière, s'ils ont satisfait, bah, ils restent fidèles à la marque. Ça, c'est super encourageant aussi pour développer les marchés allemands, d'ailleurs.
Mais en effet, c'est quelque chose à prendre en compte alors dans un business plan ou dans la projection. dès le départ, de dire que si on a des coûts d'acquisition qui sont plus importants au début, parce que bon, pour avoir le réachat, parfois il faut attendre plusieurs mois, oui, parce qu'on ne va pas acheter
Ou
des
plusieurs années,
voyages tout,
dans
ou
certains
plusieurs années.
business.
Oui. On va pas acheter des voyages toutes les semaines. Donc en effet, c'est quelque chose à prendre en compte et à pas forcément s'inquiéter dès le départ si les coûts d'acquisition sont plus importants. Est-ce que vous avez aussi l'impression, enfin vous avez un modèle qui est un peu particulier chez Evanios, mais est-ce que vous avez aussi l'impression que les Allemands comparent plus entre différentes tour opérateurs, différentes offres? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut plus convaincre et qu'ils font plus qui cherchent évidemment le prix, mais qui vont aussi comparer plus les offres des différents tour opérateurs?
Sur ça, je ne suis pas sûre que les Allemands soient un modèle comme les nôtres et sur aussi, on va dire, une cible comme la nôtre, il y a autant ça. Par contre, là où on voit des grandes différences, c'est que une fois que les Allemands viennent sur notre site et convertissent beaucoup moins que d'autres marchés en première conversion pour faire une demande de devis. Donc, ils ont beaucoup plus besoin de s'inspirer sur le site, de revenir, de regarder sur différentes pages, de comparer peut-être différentes offres sur la page. Jusqu'au moment qu'ils font une première demande de devis. Une fois qu'ils ont fait une demande de devis, là par contre, ils ont engagé et la probabilité qu'ils achètent est bien plus élevée. Donc sur ça, une fois engagé avec la marque, on va dire, et compare moins aux autres tour opérateurs, ou en tout cas, je ne saurais pas dire s'il y a une grande différence par rapport aux Français, espagnols ou italiens, mais par contre, cette première conversion, elle est pas si simple que ça.
Donc, il faut beaucoup travailler pour avoir cette première conversion, mais c'est souvent ce qu'on remarque, c'est qu'il faut en fait aller beaucoup plus, enfin, donner plus d'informations, donner plus de réassurances, donner plus de contenu pour faire cette première engagement avec la marque. Mais une fois que l'engagement il est là, bah, après, ça va beaucoup plus vite tu as des paniers moyens qui sont plus importants. Donc, ça, c'est quand même très intéressant parce que même dans la construction d'un site internet ou d'une offre de communication, il faut que ça soit pris en compte parce que tu as vraiment besoin du contenu, de montrer aussi le côté allemand de l'offre, hein, avec éventuellement l'équipe ou en tout cas les partenaires que vous avez, le Trusted Shops, c'est tout ce que tu as mentionné tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et ensuite, quand on parle donc des canaux d'acquisition, donc on a parlé du prix et du coût d'acquisition client qui est plus important, mais en termes de canaux d'acquisition que vous avez utilisés, qui étaient peut-être aussi là différents par rapport à la France, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment vous avez établi cette stratégie?
Donc, on a commencé vraiment à mettre en place petit à petit l'ensemble des canaux d'acquisition qui peuvent être intéressants, les SEA, les SEO, les partenariats, etc. Mais chaque fois avec des petites différences. Côté SEA, vu que les coûts sont plus élevés, la compétition est assez forte. Il y avait vraiment besoin de tester parfois aussi d'autres modèles de comment est-ce que tu bides, etc. Côté SEO, je dirais la stratégie globale, elle ne change pas. Mais par contre, les volumes de recherche pour certains termes sont très différents. Les contenus qui du coup est produit doivent être un peu différents, etc. Donc, pareil, on avait besoin quand même d'adapter au moins certaines choses et se dire, en fait, sur cette thématique-là, avec ces destinations-là ou avec ce type de produits-là, il faut qu'on produise du contenu exprès pour les marchés allemands, quitte à derrière, si c'est intéressant pour les autres marchés, les répliquer s'ils veulent. Et après, côté plus canaux d'acquisition autres, les displays, les partenariats, etc., on avait beaucoup plus de mal à les développer que sur d'autres marchés. En raison des coûts, mais aussi en raison du fait qu'on est en France, qu'on n'a pas forcément ces réseaux en Allemagne et que ce n'est pas toujours si simple que ça. Pour donner un exemple, on a des super partenariats d'acquisition avec les sites Lonely Planet français, espagnol et italien. En Allemagne, c'est très différent. Ça n'a quasiment pas de trafic. Du coup, il faut trouver l'équivalent allemand qui pourrait peut-être être intéressant. Mais ça, c'est une vieille maison média qui, du coup, ne veut certainement pas travailler avec une entreprise qui n'est pas allemande, etc. Donc, beaucoup de temps à convaincre, à tester, à y aller, quoi. Et après, donc, côté acquisition, sur cette partie-là, c'était assez classique avec ces adaptations. Mais par contre, plus côté stratégie des marques, on est allé bien plus tôt faire des événements sur place, faire des salons B2C, chose qu'en France, on n'avait jamais fait. Je pense qu'on n'a toujours pas fait d'ailleurs 13 ans après, qu'en Allemagne, on s'est dit très rapidement, OK, créer une autorité, c'est super important. Créer une marque pour inspirer de la confiance, etc. Donc les salons, c'est fatigant pour les équipes, mais c'est super clé de les faire, d'y être, etc. Aussi de rencontrer les premiers clients, de chercher une agence RP allemande qui nous ouvre ses portes, qui nous fait rencontrer les journalistes, etc. Donc vraiment cette partie marque, elle était assez différente.
Donc comme souvent, être sur place, être là, discuter avec les gens, montrer qu'on est une vraie société avec des vrais gens, avec de vrais Allemands qui travaillent à l'intérieur, ça revient quand même à chaque fois. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres qui concernent, juste pour qu'on ait une petite ordre de grandeur en termes du poids du marché allemand par rapport aux autres marchés chez Evanios, peut-être quelques idées autour du nombre de clients que vous pourriez avoir, pour qu'on ait une petite idée de taille.
Du coup, avant la crise Covid, parce que nous on est passé ces dernières années par des phases très très différentes, on va dire, mais avant la crise Covid, on était vraiment, Evanios était vraiment en phase de hyper croissance. Et les marchés, donc nous on était organisé en cluster, donc on a regroupé les marchés allemands avec les marchés néerlandais en cluster Europe du Nord. Même si je ne suis toujours pas à 100% d'accord sur le naming de Europe du Nord, mais bon, pourquoi pas. Donc, en tout cas, les clusters Europe du Nord faisaient 20% du business Evanios, à peu près la même chose que les clusters Southern Europe, qui étaient du coup l'Italie et l'Espagne. Et le reste, les 55% restants, c'était la France. Donc, quasiment, et sur la partie Northern Europe, 90% c'était l'Allemagne, et le reste, c'était la Suisse, les Pays-Bas et l'Autriche. Donc, c'est vraiment quand même une taille des marchés au sein d'Evanios assez conséquent. Et on était assez fiers d'arriver à un niveau ISO, Espagne et Italie, ensemble.
Oui,
et du coup, en
d'accord.
termes de nombre de clients, si on a eu. C'est assez intéressant, ça peut-être aussi. On a eu à peu près, je crois, 90 000 à 100 000 clients allemands jusqu'à là, ce qui fait un sixième de tous nos clients Evanios. Mais ça représente quand même 20% du business. Donc encore une fois, un panier moyen plus élevé, plus les chiffres d'affaires faits sur ces marchés.
D'accord. Il y a encore certainement encore beaucoup de potentiel à chercher pour vous en Allemagne, parce que le marché, il doit être. Enfin, je connais pas les. Je ne sais pas si tu as des chiffres sur la taille du marché, mais aussi important, voire plus important peut-être que le marché français sur certains secteurs. Donc, il y a encore beaucoup de choses à chercher pour vous. Et donc, justement, on va parler de la crise Covid, parce qu'évidemment, pour vous, c'est dans le secteur du voyage, c'est hyper impactant. Donc, juste avant la crise, donc, vous étiez une équipe de combien de personnes pour traiter tout ce sujet en Allemagne? Northern Europe.
Exactement. Northern Europe. On était 16 FTE ou 16 CDI, si on veut, et quelques stagiaires. Donc, on était une équipe de 20 à peu près, split en offer, sales, marketing. Et on avait une équipe service client à part avec, pareil, une petite équipe Allemagne. Donc, au total,
d'accord,
on devrait être 23, 24 CDI à travailler sur l'Allemagne.
D'accord. Et comment vous avez fait pour trouver tous ces super profils à Paris? Parce qu'il y a quand même une communauté importante d'Allemands à Paris, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc après, vous avez un sujet aussi très sympa à traiter, mais c'était facile pour vous de trouver des Allemands à Paris, ou est-ce que vous les avez cherchés en Allemagne, ou comment vous avez fait?
On a pas mal galéré, comme toutes les entreprises françaises, je pense, qui cherchent des profils allemands. Donc on a trouvé certains profils qui étaient déjà à Paris, ou au moins en France. Et on a aussi pas mal travaillé avec des associations allemandes du secteur du voyage pour qu'eux, ils envoient nos offres d'emploi, etc. Et au final, Paris n'était pas une ville si peu attractive pour les Allemands apparemment. Et notre produit et projet est assez intéressant pour qu'ils avaient envie d'y déménager. Donc je pense sur ça, on a eu un peu de chance, beaucoup, une bonne stratégie et... Et on a réussi à accéder à des super profils qui, derrière aussi, connaissaient des gens qui pourraient être intéressés, etc. Donc,
Non, mais vous êtes quand même allé jusqu'au point où vous avez cherché les gens en Allemagne, parce que vous n'arrivez plus à les trouver forcément à Paris, parce qu'il y avait quand même aussi beaucoup de start-up à ce moment-là qui ont recruté de grosses équipes allemandes. On peut penser aussi à Mano Mano, par exemple. Donc, il y a quand même de grosses start-up dans l'e-commerce qui ont eu des équipes ou qui ont toujours des équipes importantes.
Pour trouver les profils en France, ça nous a quand même beaucoup aidé aussi d'être bien connectés en France. Pareil, les associations, on parlait du DCFA au début, mais aussi des recruteurs spécialisés dans ça, etc.
D'accord. Ok, je sais à qui tu penses, mais tout le monde qui connaît bien le marché allemand à Paris sait de qui on parle. Puis on pourra peut-être le recevoir un jour aussi dans ce podcast. D'accord, donc du coup, c'était quand même un très beau développement de Evaneos avec une équipe quand même importante, avec beaucoup de clients, avec un taux en termes de chiffre d'affaires qui est quand même important. Donc un lancement super réussi quand même en peu de temps, je dirais. Est-ce que, donc après, il y a la crise Covid. Donc évidemment, ça nous intéresse un petit peu ce qui s'est passé parce que du jour au lendemain, votre business a quand même pris un sacré coup. Je pense que c'est peut-être encore sous-représenté ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous aussi en termes d'organisation avec la crise et comment est-ce que vous avez quand même pu survivre jusque-là? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que tu as quand même réussi déjà à rester chez Evaneos parce que je ne sais pas si, comment ça s'est passé chez vous, mais ça nous intéresse de savoir un petit peu ce qui s'est passé depuis.
Bah, du coup, oui, on a passé quelques années assez intéressantes. Début 2020, on avait vraiment de très fortes ambitions sur l'Allemagne parce qu'on avait créé les bases. On était en pleine phase d'hypercroissance et on savait bah, on pourrait bientôt arriver à cette rentabilité qu'on cherchait, à vraiment devenir un acteur important sur ces marchés. Donc, on avait planifié des grandes campagnes de marque, etc. En mars, chaque année en plus, c'est les grands salons de l'ITB à Berlin, le plus grand salon de tourisme dans le monde. Donc, on avait planifié un très grand stand avec beaucoup de gens qui viennent sur place. Et bah, les salons étaient annulés un jour avant. La crise Covid a commencé, les frontières étaient fermées, etc. Et du coup, du jour au lendemain, bah, on faisait plus zéro business. On devait trouver des solutions pour différer tous les voyages qui devraient avoir lieu, pour rembourser tous les voyageurs qui ne voulaient pas différer leur voyage. Donc, en termes de gestion des services clients et gestion des crises, c'était assez intéressant. On était confronté à de nouvelles problématiques qu'on n'avait pas trop avant. Bah, les agences qui peuvent faire faillite très facilement, qu'avant on n'avait quasiment jamais une agence locale qui a fait faillite. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on leur aide? Quels guidelines est-ce qu'on donne? Et au niveau européen, c'était assez intéressant aussi parce que chaque pays avait ses propres règles, ses propres lois, même les, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les réglementations des fermetures et ouvertures des pays. Il y avait des pays qui disaient bah, je laisse rentrer les Italiens, mais pas les Suisses, et les Autrichiens, mais pas les Allemands. Bah, du coup,
Et ça changeait tous les
c'était.
jours, en plus.
Oui, ça
Non,
changeait
ça
tous les
changeait
jours,
très
toutes les
régulièrement.
heures.
Ouais.
Voilà. Donc, c'était intéressant en termes de gestion de crise, mais on a réussi à y aller à fond, à vraiment se dire OK, toute la boîte gère les services clients et c'est parti. On appelle tous ensemble tous nos voyageurs, on trouve des solutions, on est flexible, etc. Donc c'était aussi d'une manière ou autre une phase assez chouette au final, qui du coup après quelques mois de gestion des crises a fini quand même dans le fait qu'on a dû faire un PSE. Donc parce qu'on savait qu'il peut y avoir encore des années sans business, on ne peut pas
Ouais.
être une équipe de 200 qui travaille dans une entreprise où il n'y a pas de business. Donc, on a décidé à ce moment-là de centraliser l'entreprise, d'arrêter les équipes des marchés locaux et se dire bah, avoir des entités business aussi importantes sans avoir besoin d'accompagner les agences locales en allemand, sans peut-être devoir travailler l'offre en ligne, etc. Ça n'avait pas trop de sens. Donc, à ce moment-là, on a centralisé. La décision était assez difficile pour les équipes, mais les choix, je pense, étaient très raisonnables à ce moment-là. Et du coup, par contre, on savait aussi que dès le moment qu'on refait du business, on a besoin de ces profils allemands. En plus, on a vraiment une super équipe. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour garder au moins certains de ces profils? Donc, on a essayé de trouver des moyens pour placer certaines personnes dans certaines équipes par le fait qu'ils parlent une langue rare, qu'ils ont une connaissance du marché rare qu'on a besoin pour la suite d'Evaneos. Et du coup, on a réussi à garder quand même beaucoup de gens et ça, c'était super chouette. Et aujourd'hui, du coup, on est centralisé, mais on a dans beaucoup d'équipes beaucoup d'Allemands, ce qui est assez sympa aussi. Donc, dans mon équipe, autre que moi, il y a trois autres Allemands. Dans notre équipe Sustainable, il y a deux Allemands, etc. Donc, ils sont un peu partout, ce qui est un autre concept, mais c'est intéressant aussi.
Donc vous êtes prêt éventuellement à relancer les équipes locales si jamais ça revient. Donc ça c'est intéressant, donc quand même de gérer cette crise et de pouvoir perdurer malgré que ça a duré beaucoup plus de temps qu'on ne pensait, que évidemment vous aviez des problématiques nouvelles tous les jours, donc ça doit être assez éprouvant. Et je me souviens que c'était très difficile de te joindre à ce moment-là ou à poser des questions par rapport à quoi que ce soit, parce que vous étiez vraiment super super sur le pont tout le temps. Mais j'avais une question, parce que je pense aussi dans cette temps de crise, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que, parce que ça c'est aussi ton sujet maintenant, dans la gestion du client, donc notamment dans une phase de crise comme ça, parce que culturellement on est différent, on réagit différemment. Moi dans le passé, je fais aussi au début de ma carrière beaucoup de services clients, donc je me souviens encore des différences entre les Allemands et les Français, notamment par rapport à la réaction à une crise comme ça. Comment est-ce que ça s'est produit chez vous, et est-ce que vous avez remarqué des différences en termes de réaction du client français par rapport à un Allemand? Est-ce qu'il faut lui dire autre chose? Est-ce qu'il faut le rassurer différemment? Est-ce qu'il y a des petites différences que tu vois?
Ça revient toujours au même besoin, ces besoins de réassurance, et il est très très fort, et encore plus fort probablement dans une situation de crise et dans une situation du monde qui n'est pas forcément ultra stable, avec beaucoup de sujets nouveaux et une crise Covid en plus. Ça a dû être très très effrayant pour beaucoup d'Allemands. Du coup, nous on a vu pas mal de différences sur les attentes des clients. Un Allemand, s'il veut être remboursé, il veut être remboursé, point.
Il n'y a pas de discussion.
Il n'y a pas besoin de discuter, ça ne sert à rien. Autant qu'on gagne du temps et que derrière, il est satisfait et qu'il revient vers nous après la crise. Donc, on a pris le pari d'un peu moins essayer de négocier avec les Allemands qu'avec d'autres clients. Et se dire, on prend le risque, on rembourse et on assure que derrière, par contre, ces clients ils vont revenir vers nous, et etc. Donc, il y avait ça. Il y a aussi la plutôt post-crise. Je dirais que ça prend un peu plus de temps pour le marché allemand aussi du voyage de se réétablir. Parce que, est-ce que je dois directement repartir dans des pays loin? C'est ce besoin de réassurance là aussi. De petit à petit, les Allemands ils vont repartir à fond, j'en suis sûre, dans 6 mois, 1 an. Mais les dernières 2 ans, c'était petit à petit.
Petit à petit, oui. Et est-ce que maintenant, donc le secteur du voyage, quand est-ce que vous pensez que ça va vraiment revenir à un niveau avant Covid? Est-ce que vous avez des projections par rapport à ça? Et est-ce que là aussi, il y a des différences entre les pays? Tu viens de le mentionner déjà un petit peu, mais quelles sont les projections que vous avez?
Donc, au global, les business events ont été répartis depuis le début de cette année assez, assez fortement. C'est super chouette de voir. On est même 20% au-dessus de 2019. Donc, notre année de référence en tant qu'entreprise Covid, c'est quand même, on compare à il y a 4 ans. Mais c'est la dernière année, on va dire, classique pour l'instant. Ouais. On a hâte d'ailleurs d'être en 2024 et pouvoir comparer à 2023. Mais bon. Et, du coup, au global, on est au-dessus de 2019 et c'est chouette de voir. Et voilà, après sur le marché allemand, on est encore légèrement en dessous de 2019. Donc, on n'y est pas encore. Il y a 2 choses, je pense. 1, les comportements clients au global, que les Allemands ils vont repartir, mais ils repartent petit à petit, etc. Et pas à fond la fin des crises et je dois repartir au bout du monde directement. Donc, et 2, on a quand même choisi de moins investir ou de manière moins agressive post-crise, aussi parce que l'année dernière était la première année où Evaneos était rentable. Donc, on a fait le choix de se dire on réinvestit petit à petit dans l'internationalisation et on ne peut pas y aller sur tous les marchés à fond d'un coup. Donc, on a fait le choix de ne pas faire des grandes campagnes de marque, par exemple, cette année en Allemagne. Mais on est prêt pour réaccélérer l'année prochaine. Et j'y crois que ça vaut le coup.
Et en fait, une question que je ne t'ai pas posée, mais qui est aussi intéressante, je trouve, dans le secteur du voyage, notamment pour tous ceux qui ne sont pas des spécialistes, quelles sont les différences en termes de destination? Est-ce que tu peux nous en dire, où va le client allemand? Où va le voyageur français? Est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport à ça? Bon, peut-être on ne parle pas de Majorque tout de suite, mais sur vos destinations qui sont quand même aussi assez exotiques, quelles sont les différences?
Au final, il n'y a pas si beaucoup de différences que ça. Il y en a certaines. Par exemple, les Allemands ils préfèrent la Namibie en Afrique à la Tanzanie, les Italiens, les Français préfèrent la Tanzanie, etc. Donc, ce qui est parfois aussi lié à des logiques historiques et au fait où sont les autres tours, où sont positionnés les autres tour opérateurs allemands, quelles sont les destinations qu'ils ont connues, quelle destination a fait quel marketing de leur destination aussi sur un marché. Mais au global, les tendances sont assez similaires en vrai. C'est-à-dire le Costa Rica, la Jordanie, la Namibie, l'Islande. Et ça a toujours été ça, avec peut-être des besoins de faire croître certaines destinations et trouver plus d'agences qui peuvent proposer une expérience adaptée. Voilà. Donc ça pouvait être différent.
Ça fait rêver quand tu parles de ça, donc ne rentrons pas trop dans le détail parce que sinon après j'ai envie de prendre l'avion. Est-ce que, donc après on pourrait poser plein de questions aussi autour de changement des habitudes de voyage maintenant avec le changement climatique et tout ça, mais je pense que ça sera peut-être tout un autre podcast sur ce sujet-là, donc on ne va peut-être pas l'explorer maintenant. Sauf que peut-être quand même une petite question, est-ce que vous voyez là aussi une différence que peut-être les destinations plus proches sont... Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre les pays par rapport à ça, justement, que les gens se disent « je ne vais pas si loin, je ne prends pas trop l'avion », vous voyez une différence ?
Au global, post-Covid, la demande des destinations moins loin, plus close to home, est bien plus forte. Nous, on a pris aussi l'opportunité de la crise, du coup, de développer ces destinations-là, bien plus fort qu'avant la crise, et de développer notre offre en train, etc. Donc voilà. Après, sur le marché allemand, il y avait une forte demande sur ce type de destination. À la base, et même sur ce type, sur par exemple des expériences bien plus responsables. Donc je pense que les Allemands sont un peu avant-gardistes, c'est peut-être pas le bon terme, mais un peu plus orientés, responsables, besoin d'avoir une expérience durable un peu plus tôt que les Français, même si ça accélère là sur tous nos marchés, c'est chouette de voir et ça fait du bien. Et ça donne de l'espoir pour l'avenir. Mais cette demande-là était plutôt là en Allemagne. Et pareil aussi, je ne sais pas, les voyages à vélo, la découverte de la nature. Donc les Allemands sont quand même très attachés à ces sujets-là. Et du coup,
D'accord, donc ça s'accélère encore un petit peu là avec les développements actuels. D'accord, bah, écoutez, on a appris déjà beaucoup de choses. À la fin, il y a toujours, on a quelques questions un peu rapides, comme ça les gens peuvent peut-être prendre des notes avec toi et avec ton expérience sur le marché allemand. Donc on a quelques questions un peu plus rapides maintenant. Donc quelles sont pour toi les trois différences principales entre un client français et un client allemand ?
Les besoins de réassurance, l'anticipation et puis les attentes de communication. Si on promet quelque chose, il faut le tenir.
D'accord. Et est-ce que tu donneras la même réponse sur la deuxième question ? Il va falloir que je les combine éventuellement. qu'est-ce qu'il faut absolument savoir avant de lancer une entreprise sur le marché allemand ? Qu'est-ce qu'il faut absolument prendre en compte et surtout pas laisser de côté ?
Déjà, de base, je pense qu'il faut savoir que c'est un investissement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère. Donc, si on prend la décision de vouloir développer ces marchés, ce qui est une énorme opportunité, je pense, pour la plupart d'entreprises, ce n'est pas simple, mais ça peut être une super belle aventure et permettre de devenir vraiment leader sur son marché ou en Europe. Et voilà, je pense qu'il y a certaines choses à adapter, qu'il faut adapter, et certaines choses où on peut se permettre de garder une idée globale. Donc, à bien réfléchir lesquels ils sont, à parler à ses clients et à comprendre les enjeux.
D'accord. Et maintenant, avec le recul sur les dernières années, que considères-tu comme le plus important dans la préparation du lancement du marché allemand ? Alors, quels seraient peut-être deux, trois tips que tu peux donner à toute équipe qui veut lancer le marché allemand à la rentrée, par exemple ? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier de préparer ?
Moi, je dirais, si on veut se lancer sur le marché allemand, de recruter des Allemands, de les encourager d'aller sur place, si c'est ouvrir un bureau ou si c'est juste avoir des déplacements, chaque entreprise en fonctionnement, etc. Et ça peut être différent, mais vraiment être présent sur place, faire des salons, des événements, discuter avec d'autres boîtes, discuter avec des clients, c'est quelque chose à jamais oublier, sinon on ne saura pas quelles sont les tendances, on sera toujours en retard, on ne sait pas représenter aussi ses besoins. Et après, au global, en continuité expliquer en interne aux autres de l'entreprise quel est le potentiel de ces marchés, pourquoi est-ce qu'on veut développer ces marchés ensemble et assurer que tout le monde a compris ces enjeux pour y aller tous ensemble en fait. Et pas avoir une équipe allemande qui est isolée dans son coin et qui essaye d'expliquer des choses mais qui n'est pas écoutée et qui n'arrive pas à mener des actions à impact au final.
Oui. Donc, la communication en interne, évidemment, toujours super important. Et quel était le point qui était pour vous le plus difficile au cours du lancement du marché allemand?
Je pense que, autre que le coup marketing au début, et se rendre compte de ça, non, je rigole, c'est surtout, je pense, ce que je viens de dire, de vraiment assurer que toute l'entreprise comprend les potentiels et les enjeux. Et que ce n'est pas parce que l'équipe allemande pense qu'il faut avoir un label de réassurance sur le site ou un numéro de téléphone sur le site que c'est pour leur plaisir qu'ils veulent faire ça, mais que c'est vraiment un besoin pour pouvoir développer ces marchés et d'y réfléchir ensemble à ces solutions et du coup amener ces solutions ensemble. Et parfois, peut-être une solution qui est ultra clé pour pouvoir développer le marché allemand peut être très intéressante pour les autres marchés aussi. Intégrer des avis clients sur un site, très clé pour pouvoir développer les marchés allemands, en tout cas en B2C. Mais je pense, j'en suis convaincue que c'est pas un problème de les avoir pour les autres marchés non plus. Ça peut que être bénéfique. Donc parfois, ouais, les impulsions peuvent venir d'un marché, mais qui peuvent être bénéfiques pour l'impact de toute la boîte.
Et est-ce que du coup, pour que toute l'équipe comprenne bien, vous avez dû faire beaucoup de petits déjeuners avec des pretzels et avec des, avec des boudins blancs chez Evanios pour que tout le monde comprenne bien que le marché allemand est important? Parce que ça, on le voit aussi souvent dans les entreprises, qu'il faut acheter des pretzels pour que tous les Français comprennent aussi que ça, il y a des choses qui sont très bonnes aussi.
Alors, sur la gastronomie, je pense que le combat, il est compliqué. Mais par contre, avec
des strudels.
Peut-être déjà mieux. Non, mais de faire des petits événements autour de ces marchés et d'assurer que ces enjeux sont visibles et que c'est porté par les équipes qui sont en charge de ces marchés et qui ont un objectif très clair et qui savent qu'ils peuvent développer ces marchés, etc. C'est une chose, mais ça doit aussi être porté par les fondateurs, par les codirs, etc. Et que c'est aussi, si on arrive au fait que les CEO d'une boîte a bien intégré ça et représente ces enjeux aussi en interne, là tout est gagné et là on peut y aller réellement.
Et ça, je me souviens, ça c'était quand même quelque chose qui était assez fort chez vous, non? L'implication de la direction d'Eric, notamment dans la communication autour du marché allemand, ça c'est quand même clé que ça vienne du haut et qu'après que ça soit compris par toute la société.
Oui, absolument. Et
ouais,
ça nous
d'accord
a beaucoup aidé, je pense.
Et donc, s'il y avait un seul conseil que tu donnerais à tout entrepreneur qui veut lancer son entreprise sur le marché allemand, le plus important, on a déjà dit beaucoup de choses, mais pour toi, le plus important, ça serait quoi?
C'est recruter une équipe allemande. Ouais.
Oui,
une équipe locale avec des profils juniors qui ont envie de s'y donner, qui ont envie de développer des marchés, qui ont de l'énergie, et quelques profils plus seniors qui ont de l'expérience sur le marché, au moins d'une manière ou autre. Et ça peut donner un super bon mix pour la suite, je pense.
D'accord. Et maintenant, à la toute fin, donc, quelques questions sur l'amour franco-allemand que nous portons évidemment dans nos cœurs, surtout toi et moi. qu'est-ce qui te manque le plus en Allemagne? Donc, je sais que la réponse, elle peut être aussi liée à la localisation de ton enfance. Mais qu'est-ce qui te manque le plus? Maintenant, tu habites en France, dans le sud de la France, à Toulouse. Mais qu'est-ce qui te manque le plus de l'Allemagne?
Je pense que c'est la réponse cliché que beaucoup d'Allemands doivent donner, mais c'est la culture tout autour des Biergarten et toute cette expression qu'on appelle la Gemütlichkeit, cette convivialité qui va avec. Et je trouve que c'est quelque chose qui me manque en France, mais vu que l'Allemagne n'est pas loin, on peut la retrouver facilement.
On peut la retrouver facilement. Et est-ce que, pendant toute ton expérience chez Evanios, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as développé le marché allemand? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu dis « Ah ben, je ne savais pas en fait qu'on était comme ça ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué et que tu as retenu?
Je pense que la partie de la German Angst, de ce besoin de réassurance, évidemment, j'étais consciente, on en entend tout le temps parler et on a grandi dans cette culture, mais que ça s'est vraiment représenté partout. Et par exemple, je me rappelle, on avait fait un test sur un formulaire qu'on a sur le site, qui est vraiment la première conversion pour être mis en contact avec un agent local derrière. Et sur ce formulaire, on a rendu obligatoire les numéros de téléphone sur tous nos marchés. Et sur aucun marché, ça posait un problème, sauf sur le marché allemand, évidemment, où les taux de conversion étaient en chute libre après. Et c'était évident que les Allemands, ils veulent pas laisser leur numéro de téléphone sur un site aussitôt dans le funnel de l'expérience. Mais je m'étais même pas posé la question. Donc, comme quoi, parfois, il faut avoir ces expériences-là pour se rendre compte et pour se dire, OK, il y a des choses. Voilà, cette réassurance, elle est partout et ce besoin, elle est très, très, très fort.
Et est-ce que d'ailleurs, vous avez fait, je t'avais pas proposé cette question en amont, donc si tu n'as pas les chiffres, ce n'est pas grave, mais est-ce que vous avez regardé la différence entre les différents pays par rapport à la consultation des sites légaux? Tu vois, les conditions générales, parce que ça aussi, c'est un mythe que les Allemands, ils vont voir beaucoup plus les conditions générales de vente, les pages d'assurance et tout ça que les Français, par exemple, et que du coup, il faut y prêter une attention particulière pour que ça soit bien écrit et aussi hyper complet.
Alors, j'ai pas les chiffres là comme ça, mais je me rappelle que j'avais regardé ça un jour par curiosité, etc. On y avait prêté une attention particulière depuis le début parce qu'on savait qu'il y a ça derrière. Mais c'était bien ça, qu'il y avait un pourcentage bien plus élevé qui accédait à nos CGV sur le site allemand que sur d'autres sites. Et on les voit aussi, nous, dans les demandes des clients qui nous demandent souvent nos garanties financières derrière. Donc, avant de faire le paiement, les Allemands demandent est-ce que vous pouvez nous envoyer nos garanties financières? Question qu'aucun client français, je pense, n'a posée ces dernières 13 ans.
Oui. Oui, en effet, donc ça c'est bien connu. Et last but not least, parce qu'en effet, on est toujours dans une démarche enfin, interculturelle, hein, enfin nous permanente tous les jours aussi. Mais est-ce que tu as une petite anecdote que tu peux partager avec nous, soit avec vos clients, soit en interne, petite anecdote interculturelle pour finir cet entretien?
J'en avais plein en tête quand tu m'as
Oui.
envoyé cette question-là, mais je pense à une particulièrement qui est vraiment autour de cette notion d'anticipation des Allemands. En fait, quand on avait au début commencé à chercher les premiers stagiaires, bah, on publiait la première annonce et les personnes y postulaient pendant un an, pendant 2 ans pour un stage. Et notre équipe RH, elle comprenait pas, elle était là, mais. On cherche quelqu'un pendant 3 semaines. C'est quoi les cycles scolaires? Ils commencent dans 3 semaines. C'est quoi cette histoire? Et du coup, nous, derrière, on a dû s'adapter et vraiment en chercher les personnes pendant un an. On les cherchait vraiment un an avant, etc. Donc, cette notion-là, elle a généré beaucoup d'incompréhension. Mais je pense qu'on ne doit pas être les seuls d'être confrontés à ça. Donc, si on le sait, au
Ouais,
moins, on
c'est
peut se
vrai.
prendre en avance.
C'est ça, on peut se prendre en avance. Bah, écoute, Caroline, merci beaucoup pour ton temps et ton éclairage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir en tirer des enseignements pour leur propre travail de tous les jours. On a appris beaucoup de choses aussi sur le marché du voyage et son évolution post et pendant et après la crise Covid. Donc, merci beaucoup. Et bah, on prendra de tes nouvelles bientôt, peut-être l'année prochaine, l'année d'après, pour voir comment le marché a repris et si vous avez réussi à refaire vos chiffres de 2019 en Allemagne. Donc merci beaucoup et bis ganz bald und vielen Dank an dich.
Danke an dich, merci pour
Ja.
l'invitation et bon courage à tous ceux qui se lancent et n'hésitez pas, ça vaut le coup.
D'accord. Et j'imagine que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions, ils peuvent te contacter sur LinkedIn éventuellement s'ils veulent avoir un peu plus de détails.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Ça aide toujours
D'accord.
de poser des questions et de se faire accompagner s'il faut.
D'accord, super. Eh ben, merci beaucoup et tschüss.
Tschüss.
Je suis heureuse que tu aies écouté cet épisode jusqu'à la fin et j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau pour ton projet en Allemagne. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter par email sur andrea.vougan@wings.co ou sur LinkedIn. N'hésite pas également à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Vielen Dank. Rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode de Good Germany Stories, le podcast de l'entreprise en expansion.